Bonjour à tous. Écoutez, je suis très honoré de pouvoir vous présenter l'histoire d'une famille qui a débuté en 1887. C'est mon grand-père, Gustave Sennelier, qui a fondé cette maison en reprenant cette boutique qui était... Voici mon grand-père, Gustave Sennelier, qui était un monsieur qui avait une formation de dessinateur et qui avait une passion quand même, c'était la chimie. Alors il va avoir l'occasion en 1887 d'avoir une boutique qui se situait au Quai Voltaire, qui était une boutique tenue par un monsieur qui s'appelait Monsieur Pruvot, qui était cette boutique qui a été peinte, et on voit encore le nom sur le tableau de Monsieur Pruvot qui avait fondé cette boutique, qui était peinte, et qui, pour vivre, vendait des produits de beaux-arts, et à la fin dans la cour du Quai Voltaire, il avait son atelier de peinture. Alors, mon grand-père était vraiment passionné par la chimie et il va se former à la chimie par des cours du CNAM où il va apprendre la chimie pendant un certain nombre d'années pendant qu'il travaillait à l'époque comme dessinateur. Et puis, voilà cette boutique qui fait de mauvaises affaires. Mon grand-père, qui habitait sur les quais un peu plus loin, vers le boulevard Saint-Michel, voit un jour cette boutique à vendre. Alors, il va la reprendre et s'installer pour vendre et fabriquer des couleurs. Alors voilà cette boutique à l'époque, à la fin du 19e, début 20e. Elle est là, vous la voyez telle qu'elle était. Et la voilà maintenant, aujourd'hui. Vous voyez, les choses ont peu évolué. On a gardé exactement le même décor qui doit remonter à l'époque de 1870 qu'avait installé M. Pruvot. Alors voilà l'intérieur de ce magasin. Vous avez ici, dans ce magasin, à cet endroit-là, il va y avoir un monsieur qui va être le broyeur dans lequel les couleurs vont être broyées devant les clients. Alors vous avez même les personnes qui travaillent ici, qui sont les gens qui vont mettre les couleurs en tube ou qui vont continuer à préparer les couleurs. Voilà le magasin aujourd'hui. Vous voyez, les choses ont peu changé. On a toujours le même décor, mais un peu plus de marchandises. Alors voici mon grand-père dans l'atelier de fabrication qu'il avait installé dans le fond de la cour à la place de l'atelier du peintre et qui broie les couleurs, qui fait des essais. Alors vous avez, il a son petit trébuchet et dans le fond ici, vous avez les palettes. Vous voyez, c'est des palettes en porcelaine sur lesquelles on posait les touches de peinture pour voir leur adhérence et puis pouvoir juger sur un fond blanc les couleurs. Il est très caractéristique que ces couleurs étaient placés et utilisés sur ces genres de palettes que nous avons utilisées jusque dans les années 80. Vous voyez, donc ça a été encore très pratique pour pouvoir poser la peinture et voir son adhérence. Alors voilà comment on broie les couleurs. Ben voilà, vous avez la petite molette que vous avez vue dans la main de mon grand-père. La voici maintenant en un peu plus grand. Et c'est une molette que nous avons qui fait environ à peu près 25 cm de diamètre. Et vous avez le pigment qui est sur la plaque de verre ou sur une plaque de granit. Voilà la production qui se tenait dans ce magasin. Elle était dans le fond du magasin. Donc il y avait le broyeur qui produisait à peu près environ 2 à 3 kilos de peinture par jour et qui broyait devant les clients. Alors comment va s'installer cette fabrication ? Elle va débuter dès qu'il prend la boutique, il veut fabriquer ses couleurs. Alors, mais il n'a pas d'expérience en la matière. Donc il va travailler en collaboration avec les clients qui viennent acheter des peintures qu'il revend à l'époque, qui sont des peintures de différentes maisons qui existent, des maisons comme Lefranc, des maisons comme Bourgeois et beaucoup de maisons anglaises. Il a beaucoup de rapports avec les fabricants anglais qui sont des maisons comme Windsor & Newton, qui sont comme Harding ou des maisons comme Rahoney à l'époque qui existent et il a beaucoup de liens avec ce monde anglo-saxon. Et donc, il va fabriquer les couleurs en collaboration avec les gens, avec les peintres qui viennent. Et un certain nombre de ces peintres vont lui donner des conseils, des avis. Et au bout de 2 ans, il va avoir construit sa propre gamme de peintures, de couleurs, les couleurs à l'huile qu'il avait tant rêvé. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ces peintures une fois qu'elles sont broyées ? À l'époque, jusqu'en 1850, grosso modo, on les met dans des vessies de porc. Voilà, vous avez ici l'illustration de vessies de porc dans lequel on a mis une petite canule que vous avez ici. On les pose, vous voyez, dans le nœud et on a un petit bouchon qui permet de boucher le conduit et on appuie sur la vessie de porc pour faire sortir, je dirais, la peinture qui est conservé à l'abri de l'oxygène, parce qu'on sait très bien que la peinture va sécher en contact avec l'air. Donc, c'est le procédé qui est utilisé pour conserver les peintures jusque dans les années 1850. Vers les années 1850, va apparaître en Angleterre les premiers tubes métalliques qui sont à base de plomb et d'étain et qui vont être utilisés et remplacer forcément l'utilisation de ce genre de choses. Alors, vous voyez ici, quand on fabrique les couleurs, on les met dans des tubes. Vous les avez ici, ces tubes. Vous voyez, c'est des tubes métalliques. Alors, on remplit un piston qui est ici, de peinture, et avec une vis sans fin qui pousse ce piston, on va remplir le tube progressivement et après le fermer avec une pince. Ça, c'est le procédé de fabrication de l'époque. Alors, voici des tubes de l'époque de la fin du 19e, début 20e, qui sont fabriqués par mon grand-père, qui sont, vous avez ici des garances, alors on reviendra après sur les pigments qui vont être utilisés, et c'est la première gamme de peinture à l'huile de l'époque que nous avons gardée. Et je vous montrerai tout à l'heure quelques tubes de ce fin du 19e. Voilà une boîte encore que j'ai ici où on montre des tubes. Alors, pour vous donner quand même une idée de grandeur, voilà les tubes de point que nous avions à l'époque. Et ce sont des tubes de cette taille-là. La peinture est utilisée en petite quantité et on en produit quand même des plus grands tubes. Mais enfin, c'est quand même des tubes assez limités au point de vue surface. Il y a l'emballage le plus important, ce sont des boîtes métalliques. Alors, vous voyez, on a fait et voilà comment à l'époque, on sortait la peinture, il n'existait pas les très très gros tubes, il existait ce type de boîte dans lequel il y avait un piston sur lequel on appuyait avec le manche de son pinceau pour faire sortir la couleur. Alors là, ce sont des appareils de broyage, ça ce qu'on appelait un moulin à couleur, parce qu'il y avait où on broyait à la main, mais bien sûr ce travail ne produisait pas de grandes quantités de peinture, alors on a inventé le moulin à couleur. Vous avez ici une partie qui tourne, vous voyez, avec un engrenage, et cette partie-là va tourner, cette meule va tourner, celle-là est fixe, celle du dessus. Et alors, on tourne très lentement, et la peinture est... vous voyez, il y a un petit espace, un petit espace entre les deux, et la peinture est récoltée par cette petite languette, et ça coule dans un pot que l'on met ici. Cette machine, nous l'avons utilisée jusqu'en 1980. Et moi, j'ai commencé à broyer mes couleurs quand on faisait nos aquarelles, on les faisait sur ce type d'appareil, parce qu'ils tournent très lentement, c'est une sorte de meule, vous voyez, qu'on va retrouver tout à l'heure dans le labo quand on fait des essais de pigments. Après, bien sûr, il va connaître un certain succès et il va installer dans le fond de la cour, l'espace de l'ancien atelier du peintre, il va installer des broyeuses, ce qu'on appelle des broyeuses tricylindriques. Vous avez ici deux machines et vous avez sur ces machines, il y a trois cylindres. On met de la pâte ici, qui est broyé entre deux cylindres qui sont en porcelaine à l'époque ou en granit, et le troisième cylindre ramène la pâte. Et on va la passer à plusieurs reprises jusqu'à l'obtention d'une pâte consistante et qui donne satisfaction, je dirais, sur la consistance que l'on cherche à obtenir. Alors, une fois que, bien sûr, on a mis ça c'est un autre aspect de la fabrication, c'est les vernis qu'il fabrique. Et vous voyez, il les ferme, comment il les ferme? Il les ferme avec une sorte de ficelle avec deux morceaux et pour mettre une sorte de capuchon en plomb que l'on met sur les flacons. C'est la fabrication qui a lieu dans les années 1900. Voilà, ça c'est le côté un petit peu de la femme de Gustave Senuel, qui était ma grand-mère, que j'ai connue, qui était peintre et qui animait et vendait, avait des contacts avec le monde des peintres. Et elle avait une passion quand même, elle aimait peindre. Elle était peintre par nature. Alors c'était un dimanche dans sa maison de campagne, vers les années 1910, où elle invitait les amis et on passait l'après-midi à peindre. Alors, voilà ici le développement un petit peu de la société pour aller un peu plus rapidement avant d'arriver au problème de fabrication. En 1915, cette société évolue avec l'entrée de mon oncle, le fils aîné de Gustave Sennelier. En 1928, c'est son fils, son second fils, mon père, qui a travaillé, lui, après ses études d'ingénieur chimiste, a travaillé dans la fabrication des pigments, dans une usine qui se trouvait au Murau, qui fabriquait un certain nombre de pigments, des cadmiums, des chromes. Et il va y travailler pendant un certain nombre d'années et rentre dans la société en 1928, peu de temps avant le décès de son père, qui va décéder en 1929. Et bon, donc après, la société va évoluer, la société va être dirigée par les deux frères, et en 1936, ils ouvrent un deuxième magasin à Montparnasse, et un atelier à Vitry-sur-Seine, car la fabrication s'est développée. Alors, bien sûr, voilà une participation en 1900 à l'exposition universelle où mon grand-père présente ses produits. Il a un petit stand, il est très fier de présenter ça, donc il en fait un certain nombre de photos avec les spécialités qu'il a à l'époque. Et je reviendrai sur les fabrications qu'il avait lancées. Ça, c'est la couleur, c'est un de ses catalogues des années de l'époque 1900, 1890, 1895. Là aussi, voilà encore c'est ce qu'il fabrique, il les présente, et c'est un catalogue des années 1896, si je vois bien. Là, c'est les nouveautés, parce qu'il a ressorti l'aquarelle. Compte tenu du succès qu'il va rencontrer avec les huiles, hein, il a eu la participation d'un peintre, je vous ai dit, il a travaillé, élaboré sa gamme avec un certain nombre de peintres, connus et même pas méconnus, dont l'un va lui donner quelques conseils, qui s'appelle Cézanne, et qui lui donne des conseils sur la consistance, sur les critiques qu'il faut apporter à la fabrication de ses couleurs. Et puis, comme ses couleurs à l'huile connaissent un certain succès, on lui conseille de se lancer dans la fabrication d'aquarelles, ce qu'il va faire, et va lancer, bien sûr, les ventes dans son magasin du Quai Voltaire. Alors là, c'est les catalogues qu'il prépare, qu'il présente. Vous avez ici, il dessine lui-même ses catalogues, et vous avez ici la boîte chevalet qu'on va retrouver chez Cézanne, qu'on va retrouver aussi chez Renoir, qui sont ces boîtes chevalet de l'époque que l'on porte sur le dos. Et on voit des photos de Cézanne, notamment en Provence, avec cette boîte sur le dos. Alors voilà comment elle se tenait à l'époque. Vous voyez, la boîte était devant, et puis où on la portait sur les genoux. C'était l'époque. Alors, il était assez fier de ce qu'il faisait. Alors, vous voyez, il signait toujours ses dessins. Alors, ça, c'est voilà les tubes qui étaient à l'époque fabriqués. C'est un catalogue un peu plus récent, qui est des années 1924. Donc, vous voyez, les couleurs à l'huile étaient dans différentes tailles de tubes. Le petit que je vous ai montré, on allait jusqu'à ce tube-là, qui était quand même déjà un tube qui faisait à peu près 50 millilitres à 60 millilitres. Voilà, alors différents. Voilà 1913, des couleurs à l'huile qu'il fabrique. Et il présente ses différents catalogues. Vous avez ici, alors il va sortir en 1905-1910 un petit traité sur la chimie des couleurs où il va présenter en détail la nature des pigments qu'il utilise ou qui sont utilisés dans la palette d'un peintre. Donc là, il va en donner la composition, il va en donner. C'est assez peu fréquent qu'on donne au grand public, si je puis dire. C'est connu d'un certain nombre de spécialistes ou des professeurs qui enseignent dans les écoles d'art. Mais lui va le développer en donnant une explication, je dirais, assez détaillée. Voilà un petit peu, par exemple. Là, voilà un exemple de ce qu'il m'a présenté sur le vermillon, l'historique, les propriétés, l'emploi. Bon, et donc, il va, je dirais, le communiquer à l'ensemble, ce qui est assez nouveau à l'époque. Alors, il va poser dans son magasin les couleurs qu'il fabrique et qui sont toujours là. Qui sont les couleurs qu'il fabrique, qui sont les couleurs à l'huile qu'il a commencé donc en 19e. 1895, les peintures d'aquarelle qu'il va sortir vont être suivies ensuite par les couleurs de tempéra à l'œuf qu'il va lancer. Alors voilà les cartes de nuances qu'il pose. Vous voyez, voilà tempéra à l'œuf. Et ces cartes de nuances ont été posées, celle-là va être posée en 1926. Depuis, elle n'a jamais été réouverte. Si vous venez un jour dans ce magasin, vous verrez, elles sont toujours là. Il y a eu un petit incendie dans les années 1882 dans le magasin qui avait dégagé beaucoup de fumée. Enfin, il n'y a pas eu de flamme importante, mais une combustion importante. Et il y a eu beaucoup de fumée. Et on voit du reste les traces ici de cet incendie. Parce qu'il y a eu un engagement de prix dans la famille. On ne rouvrira jamais ces vitrines. Alors, vous avez toutes les fabrications qu'il fait, les huiles. Vous pouvez voir 70 ans ou 75 ans après les couleurs, comment elles se sont comportées. Vous avez certaines couleurs qui ont modifié. On verra notamment sur les chromes. Vous voyez, on a des chromes on en voit un là, par exemple, ici. Vous voyez des couleurs qui étaient à peu près de cette fraîcheur-là. Voilà ce que ça donne 70 ans après pour les chromes. Les chromates de plomb ont tendance à noircir, ça on le sait. Et bon, on en a vraiment une illustration très, très exacte ici. Et puis la tenue à la lumière, parce que ce sont des couleurs qui sont restées, mais pas exposées directement en pleine lumière, mais à la lumière intérieure d'un magasin. Alors voilà maintenant les cartes de nuances que nous faisons maintenant, qui n'ont rien à voir, qui ont été présentées au Grand Palais dans les années 80 un salon où on représente à peu près toutes les grandes familles que nous fabriquions et que nous fabriquons toujours, qui sont les couleurs à l'œuf. Vous avez ici les gouaches, les couleurs à l'huile extra fine, les pastels tendres et les aquarelles, qui sont les grands classiques de notre maison. Alors, les pigments et les colorants qui sont la base de toutes les couleurs que nous utilisons. Alors, vous avez eu tout à l'heure par M. Walter un certain nombre d'explications techniques. Je ne vais pas revenir sur la nature des pigments, mais c'est la base de toutes les couleurs et c'est là où je voudrais un petit peu m'arrêter un peu plus longuement pour vous expliquer un petit peu comment nous, je dirais, artisans, fabricants de peinture pour les artistes, comment nous choisissons et comment nous sélectionnons nos pigments. C'est un domaine important et voilà, je vous montre aussi quelques photos de lieux où sont extraits des pigments. Ceci est une mine qui se trouve dans la région de Apt, dans le Vaucluse, où on extrait l'ocre jaune. L'ocre jaune, et on voit également ici des stries de rouge qui sont des parties qu'on pourrait appeler des ocres rouges. Alors, comme vous a dit tout à l'heure M. Walter, le problème des ocres, c'est qu'on peut les chauffer. Mais dans la nature, il y a des fois des concentrations ou d'oxyde de fer plus importantes, ce qui fait que certaines couches de ces ocres sont plus riches en oxyde de fer que d'autres, ce qui explique qu'il y a des veines plus foncées que d'autres. Le gros problème des pigments naturels, qui ont été la base de toutes les couleurs et qu'on a beaucoup utilisé à travers les siècles, c'est l'irrégularité dans laquelle on est confronté. On est dans un monde où les gens aiment avoir toujours des standards très précis. Alors, quand on est dans le produit naturel, il y a des variantes. Alors, bien sûr, vous allez me dire, quand on fait des extraits, on extrait ces pigments, on essaye de créer une sélection parce que ces carrières ont le gros avantage d'être à ciel ouvert. Mais ce n'était pas le cas toujours dans certaines régions, et notamment dans Bourgogne, où pendant très longtemps, les ocres de Bourgogne ont dominé le marché. Du fait de la proximité de Paris, dans la région de Saint-Amand, il y avait des ocres de très bonne qualité, de très bonne concentration, je dirais, de ces argiles colorées que sont les ocres. Et on avait une teneur en ocre beaucoup plus intéressante que par rapport aux ocres de Provence, où le pourcentage de silice, c'est-à-dire des sables dedans qui sont dedans et qui nécessitent des lavages importants, sont beaucoup plus riches en silice. Donc, mais l'inconvénient de cette région de Bourgogne est que nous sommes dans des filons beaucoup plus minces et deuxièmement qu'il faut aller chercher à 30 ou 40 mètres dans le sol, donc c'est obligé d'avoir des mines et de faire descendre les ouvriers sur des filons beaucoup plus minces que ce que nous avons en Provence. Avec l'arrivée bien sûr du train, la Provence va dominer le marché et ça va entraîner la fermeture progressive des mines de la Bourgogne qui, bonne nouvelle, se sont rouvertes récemment grâce à des moyens d'extraction beaucoup plus faciles maintenant. Alors voici une autre mine qui est, elle, à Chypre. Alors vous avez ici ce qu'on appelle, vous voyez en haut par exemple, toute cette partie-là, ce sont des terres très riches en manganèse qui sont ce qu'on appelle les terres d'ombre. Qui sont les terres d'ombre, qui sont les plus intéressantes, viennent de cette région. Et en dessous, dans toute cette partie-là, nous sommes en présence de cuivre. Alors, vous parliez tout à l'heure du cuivre. Eh bien, les Égyptiens ont utilisé cette mine de cuivre, qui est toujours en exploitation aujourd'hui, parce qu'on sait qu'on a retrouvé des statuettes de cuivre en Égypte, et on a, par les impuretés, on a déterminé qu'elle venait de cette mine de cuivre qui est maintenant exploitée par une société canadienne, et que j'ai visité il y a une dizaine d'années. Alors, les plus belles terres d'ombre viennent de cette région et que l'on connaissait depuis longtemps. Il y avait également ici, dans cette région de la Chypre, de très belles terres vertes, des céladons qui sont très intéressantes, qui ont été très utilisées pendant longtemps et qui, malheureusement, sont en voie d'épuisement, puisque maintenant, on la recueille presque à la petite cuillère, parce qu'il n'y en a quasiment plus. Mais pendant très longtemps, les terres vertes, qui sont des argiles colorées très intéressantes, mais qui n'ont pas de pouvoir couvrant ni de pouvoir colorant important, ont été utilisées comme verre parce qu'il n'y avait pas beaucoup de verre dans la palette des peintres. Alors voici les pigments que nous avons, qui sont conservés dans notre magasin, qui avait sélectionné mon grand-père et qui sont toujours là en décoration et qui étaient une base de ce que nous étions. Alors, nous avons ici un pigment intéressant qui est le bleu de cobalt. Pourquoi je présente ce flacon de bleu de cobalt ? Parce que mon grand-père avait su et savait que le bleu était une couleur très appréciée par les artistes et une couleur très demandée. C'est encore la teinte la plus demandée sur le marché. Quand on présente à des artistes et même au grand public quelle est la couleur qui arrive en premier, c'est le bleu. Alors, il avait focalisé, alors, bon commerçant, il avait focalisé sur le bleu et s'était dit, il faut absolument que je choisisse des bleus de belle qualité. Alors, quand il a pris cette maison, il a quand même voyagé un petit peu pour sélectionner avec les différents artisans et différents industriels de l'époque. Il avait été quand même en Angleterre, voir des fabricants de pigments, il avait été en Allemagne, et puis il avait bien sûr, en France, il y avait un certain nombre de petits artisans qui existaient. Moi, j'ai connu encore, même dans les années 50-60, des usines qui fabriquaient des pigments à base minérale ou organique, des pigments qui étaient dans la région parisienne. Vous aviez une très belle usine qui était à Choisy, qui s'appelait la maison La Borderie. Vous aviez la manufacture des couleurs d'Ivry, qui fabriquait des pigments. Vous aviez la maison de Tchernia. Enfin, j'en prends un certain nombre d'exemples. Toutes ces maisons ont disparu, ont été reprises par des grands groupes et fabriquaient des pigments pour, je dirais, toute l'industrie. Alors, bien sûr, l'industrie des beaux-arts était une industrie qui consommait des pigments, mais de petites quantités, parce qu'il faut savoir que le pigment trouve des applications extrêmement importantes. N'oublions pas que le pigment va être la base de toutes les peintures industrielles, bien sûr, aussi bien dans l'industrie que dans le bâtiment. Ça va servir maintenant beaucoup dans les plastiques. Ça va servir dans l'imprimerie. Les encres d'imprimerie sont des gros consommateurs de pigments. On les utilisait aussi beaucoup pour les papiers peints. Enfin, le pigment représente une industrie très importante et le beaux-arts représente, grosso modo, tous les fabricants réunis représentent environ 2 à 3% de la consommation de pigments. C'est vous dire que 97 à 98% des pigments sont destinés à l'industrie. Et qu'est-ce que c'est qu'un fabricant de peinture de l'époque, qui est un artisan, n'oublions pas que notre maison fabrique des peintures, les vend dans ses magasins, donc surtout dans le magasin du Quai Voltaire à l'époque. On les vend un petit peu dans d'autres boutiques, mais très peu. Et puis, on expédie beaucoup en France et un petit peu à l'étranger. Mais ça reste une fabrication assez limitée, avec quelques employés, il y a 7 à 8 personnes, et on fabrique ces produits qui sont appréciés par un certain nombre de peintres. Et comme il y en a beaucoup à Paris, il faut savoir que Paris, à l'époque, il y a au moins une vingtaine de petits artisans qui fabriquent des peintures. Vous avez à Montmartre, vous avez le fournisseur, il s'appelle, je crois, Chalmel, qui fournit Renoir. Bon, alors c'est sur les grands. C'est sur les. Là-haut, à Montmartre, il y a des fabricants de peintures. Il y en a un qui est très connu, que vous connaissez tous, c'est le père Tanguy, et qui va fournir des Pissarro et des gens comme ça, avec qui va fournir Van Gogh également. Bien que son frère viendra une ou deux fois au magasin tout à la fin de sa vie de Van Gogh, parce que ça va durer un an, la période où nous ouvrons le magasin et où Van Gogh met fin à ses jours. Mais il y a beaucoup de petits artisans qui fabriquent. Il y en a, bien sûr, dans le Marais. Il y en a également autour de l'École des Beaux-Arts. Et j'ai même connu, dans les années 50-60, une maison qui s'appelait Berthollet, qui est un monsieur qui fabriquait des peintures, où maintenant il y a une boutique qui s'appelle la maison Nobilis, qui fabrique des papiers peints et des tissus. Mais il y avait des artisans, notamment à Montparnasse aussi, il y en avait un qui s'appelait Morin et Janet, il y avait rue Soufflot, une maison qui s'appelait Merlin-Denis, qui a été repris maintenant par une autre maison qui s'appelle Dubois, mais moi, j'ai connu ces gens fabriquant des peintures, et essentiellement des peintures à l'huile. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi nous, Sennelier, nous sommes restés, beaucoup ont disparu? Parce que je crois que mon grand-père avait commencé par, je dirais, travailler en collaboration avec beaucoup de peintres, et deuxièmement, il avait porté un soin particulier à la sélection de ses pigments. Ça, il avait beaucoup, je dirais, travaillé sur ce point, apporté un soin particulier en allant choisir ses pigments et en travaillant avec les chimistes des 10 différents petits fabricants qui étaient dans la région parisienne. Ensuite, va arriver la deuxième génération avec mon père, qui, lui, a fabriqué des pigments, donc il en connaît bien les caractéristiques. Il a travaillé dans une ligne pendant 7 ans après être sorti de l'école de Mulhouse, et il va avoir une connaissance tout à fait particulière. Et quand je rentrerai dans la société dans les années 50 et quelques, je vais être formé, bien sûr. Alors, je vais suivre un certain nombre de cours de chimie chez des fabricants et de pigments. Et je vais également travailler avec lui où nous allons, il va me communiquer les bases de la sélection des pigments. Donc, on va beaucoup travailler sur ces pigments. Alors, voilà des pigments qui ont été un exemple d'un pigment qui a été, comment dirais-je, créé en collaboration avec une usine. C'était un rouge de toluidine que mon grand-père avait décidé de fabriquer, qui est un rouge vif qui était fabriqué par une maison qui s'appelait la maison Manufacture de Couleurs d'Ivry pour concurrencer un peu les cadmiums qui étaient très chers. Alors, bien sûr, ça n'avait pas la solidité des cadmiums au point de vue tenue lumière, mais ça avait quand même des caractéristiques d'un rouge très, très, très vif et très intense, pour ça qu'il l'avait appelé le rouge Helios. Alors, je voulais vous revenir un petit peu quand même, si vous voulez, sur le bleu de cobalt, parce que je voulais vous montrer un petit peu la complexité, et on va le retrouver après des bleus de cobalt, la sélection des bleus de cobalt. Parce qu'il faut savoir que quand on choisit des pigments pour un artisan, nous avons en face de nous un certain nombre de fabricants. Et notamment, aujourd'hui, je peux vous proposer en bleu de cobalt au moins 150 à 200 bleus de cobalt qui sont fabriqués par 7 ou 8 usines de par le monde. Et le rôle d'un coloriste ou d'un artisan de la peinture, c'est de sélectionner, je dirais, ces pigments. Alors là, je vous ai montré le rouge, et puis on va arriver, voilà les pigments que... Alors, ces pigments que nous avons, je dirais, sélectionnés, on va les revendre parce qu'il va y avoir une demande. Il va y avoir une demande qui va apparaître surtout dans les années après-guerre, hein, où les artistes, et notamment il y en a une exposition récente d'un artiste qui a été un des bons consommateurs de pigments, qui a relancé un peu ces pigments avec nous, c'est Poliakov, qui par exemple fabriquait ses peintures achetait les peintures en poudre chez nous et qui venait les acheter parce qu'il avait aimé les pigments. Mais ce n'était pas notre vocation à l'époque de revendre les pigments aux artistes, c'était de les utiliser pour nos propres fabrications. Alors, vu la demande, parce que moi j'ai connu où on en vendait quelques petits sachets dans les années 50, et puis la demande n'a fait que croître, alors que nous pensions que les gens appréciaient. Ça avait complètement disparu entre la fin du 19e et les années 50. Les gens prenaient des peintures broyées, prêtes à l'emploi. Et puis revient cette demande, sauf bien sûr une exception, les gens qui faisaient de la fresque recherchaient toujours les pigments. Alors nous, voilà un petit peu les pigments que nous vendons. Alors je voulais vous montrer un petit peu cette carte de nuance de bleus, qui sont des bleus de cobalt, hein, qui vont, nous avons environ une quinzaine de bleus de cobalt qui sont de différentes fabrications. Vous avez le ton pur, vous avez le ton coupé à une part de blanc de titane plus une part de bleu pur, et vous avez ce dégradé-là. Et là, vous avez une part de bleu et neuf parts de blanc. Donc, on voit à peu près la richesse des... Alors, on compare les touches pleines de différentes couleurs. Tout ça, ce sont des bleus de cobalt de différents fabricants. Et notre rôle, nous, ça va d'en choisir un. Alors, on est devant ce phénomène d'un choix considérable de ces bleus. Là, j'en ai pris 15, j'aurais pu en mettre 50. Et puis, il faut en choisir un. Alors, qu'est-ce qu'on avait ? On avait tout à l'heure le petit pot que vous avez vu de mon grand-père. Eh bien, ce petit pot, il reste notre référence. Quand on a à choisir un pigment, parce qu'effectivement, les fabricants qui fabriquaient le bleu de cobalt dans les années 1890 ont disparu. Donc, il nous faut, nous, garder ce ton comme base de référence pour notre bleu, parce que c'est un challenge que l'on s'est fait, et de le sélectionner, bien sûr, dans des fabricants qui peuvent encore nous en fournir. Alors, on a choisi, vous voyez, celui-là, hein, je vous donne la réponse, c'est celui-là que nous avons choisi. Alors, pourquoi on l'a choisi ? Parce qu'il nous a paru, quand il est en plein ton, mélanger, ne pas avoir, par exemple, ce défaut de celui-là qui monte trop. Alors, ce n'est pas dire que le dégradé n'est pas intéressant. Il a un dégradé intéressant aussi, ou même celui-là. Mais il a une baisse, une intensité trop forte, alors que là, il reste dans une continuité et dans un éclat plus bleu de cobalt à nos yeux. Alors, Alors, on va également aussi faire des essais avec des, vous voyez, des fiches de comparaison. Vous avez ici des fiches de, je dirais, de, que nous avons, qui sont des fiches où on a un noir et on va voir le pouvoir couvrant de ces. Vous voyez. Alors voilà un bleu de cobalt que nous avons posé, hein, et qui est le bleu de cobalt que nous avons sélectionné parce que il a un pouvoir couvrant qui nous paraît intéressant, un peu plus que celui-là, mais vous voyez, la différence est très faible. Et c'est les artistes, par leur utilisation et par leur réputation que la marque se fait, qui vont, donner leur accord ou non à votre choix. C'est l'utilisateur qui est le décideur du succès ou du non-succès d'une marque. Alors voilà ces pigments que nous avons dans notre usine, que nous mettons en œuvre avec différents liants. Alors, je ne veux pas rentrer trop dans l'histoire des pigments, parce que je pense qu'il y aura des gens plus compétents que moi en ce qui concerne. Nous utilisons bien sûr des pigments aujourd'hui d'origine minérale, d'origine. Il y en a très peu maintenant d'origine animale. Il existe des pigments encore d'origine, végétale, comme la garance, qu'on utilise, mais très peu. Bien sûr, la chimie de synthèse a bien sûr pris une place considérable. Mais du temps de mon grand-père, on utilisait bien sûr des pigments comme bien sûr la garance. On utilisait aussi encore la cochenille, qui est un petit animal, un insecte que l'on trouve, au Mexique. Et on a utilisé bien sûr des pigments d'origine végétale avec le noir de pêche, par exemple, ou le noir de vigne, qui était des sarments qu'on écrasait quand ils avaient été passés dans les fours. Et on utilisait plus. Il a utilisé aussi, bien sûr, des pigments qui ont disparu, comme on parlait tout à l'heure du blanc de plomb, qui ont été très utilisés à une époque. Pour la mémoire, ce blanc de plomb est quand même considéré aujourd'hui comme le meilleur blanc qu'on puisse trouver. Mais le problème, c'est que la fabrication est quasiment arrêtée parce que du fait de sa toxicité. Alors, il y a des couleurs qui sont maintenant remises un petit peu à l'heure du jour, comme les vermillons véritables. Dans la mesure où on les rend insolubles dans ces sulfures de mercure, on arrive à en faire un petit peu maintenant, à les relancer, mais avec des contraintes quand même d'étiquetage et de vente confidentielle. Il existe encore du blanc de plomb, mais il n'est pas vendu comme ça à tout le monde. Il faut présenter pâte blanche, parce qu'il y a des restaurateurs ou des gens qui sont très épris de voir des pigments à l'ancienne, parce qu'on sait quand même que le blanc de plomb, c'est le meilleur. Il a été remplacé, vous le savez, au cours du 19e, principalement d'abord par le blanc de zinc et puis par le blanc de titane, et progressivement, bien sûr, ont pris le relais de ce fameux blanc de plomb. Alors maintenant, les deux blancs qui dominent, c'est d'abord le titane et puis le blanc de zinc aussi, qui est également utilisé. Alors, bien sûr, quand nous fabriquons nos couleurs, voilà ici les pigments qui sont mélangés dans une sorte de pétrin. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une couleur ? On a le pigment, et puis on va mettre un liant. Ce qui va faire. Le liant, ça va donner la nature de la peinture que vous fabriquez. Alors là, c'est une peinture à l'huile. Alors on met de l'huile, et voilà comment vous avez les trois cylindres ici que vous le retrouvez. Vous voyez, c'est le même principe aujourd'hui qu'à la fin du 19e, vous aviez vu les deux broyeurs qui étaient derrière leur broyeuse. Ici, on a le même système. Vous avez la pâte, vous avez ce rouleau-là de pâte que l'on voit très bien ici. Vous voyez, ça, c'est la pâte. Elle est prise entre ce rouleau-là et un deuxième rouleau qui est ici. Vous voyez, ce petit rouleau-là. Et le troisième rouleau va ramener la peinture sur le devant. Vous voyez, elle arrive là. Et elle est ramassée par une... Alors, ces cylindres tournent très vite, alors qu'à l'époque, comme vous avez vu, il y avait des courroies, il y avait un rythme très lent. Ça tournait avec des cylindres en porcelaine. Pourquoi on tournait lent? Parce qu'il ne fallait pas chauffer. Il ne fallait pas, parce que si l'on chauffe la peinture ou la pâte, ça peut modifier le ton. Donc, on tournait très lentement. Alors maintenant, on tourne beaucoup plus vite. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé un système de cylindres en acier très, très dur, très résistant, et on fait passer au centre des cylindres un courant d'eau froide, très rapide, qui fait qu'on peut tourner très vite et qu'on refroidit en permanence les cylindres pour ne pas avoir d'échauffement. Voilà la peinture. Une fois qu'elle a été broyée, vous voyez, on la montre en sorte de petite pyramide, c'est parce qu'on a atteint la consistance qui nous intéressait. On sait que là, la couleur va se tenir, elle a sa structure, il faut qu'elle ait une sorte de consistance, comme un fromage, qui tienne bien, il ne faut pas qu'elle s'affaisse, il ne faut pas non plus qu'elle soit trop dure. Alors ça, c'est l'habitude, c'est l'expérience qui va vous donner. Une fois qu'on a fait une fabrication, on va poser la touche et on va la mettre sur des cartons. Alors on a des dizaines et des dizaines de cartons de ces couleurs qu'on pose d'abord en couche épaisse, puis après on le dégrade au doigt pour voir un petit peu comment ça va se comporter au bout de 30, 40, 50 ans. Alors moi, j'ai pas voulu vous apporter toutes ces plaques, mais on a des plaques comme ça où on a des couleurs, des années. Alors vous voyez là, on est en 70. Hein, c'est dans les années 79 que ça a été fait, et on voit la couleur, comment elle se comporte. Alors, il arrive bien sûr qu'il y a des petits problèmes, que des couleurs se comportent moins bien que d'autres, mais enfin, dans l'ensemble, nos couleurs se sont bien comportées dans l'ensemble. Alors voilà maintenant, aujourd'hui, comment on remplit. Vous aviez vu comment on avait vu le cylindre. Maintenant, on les remplit avec, vous voyez, le tube vide, et on va avoir une canule qui va descendre, et ce sont des systèmes automatiques avec lesquels on remplit les tubes. Ça, c'est mon père qui est... C'était un chimiste qui est assez brillant, puisqu'il a refait un produit qui va être assez connu et mondialement connu, qui s'appelle le pastel tendre. Alors, qu'est-ce que c'est que le pastel tendre? C'est le pigment. C'est le produit le plus près du pigment naturel. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va prendre? On prend de la poudre de pigment et on va la mélanger avec un liant. Et la grande difficulté du pastel, c'est de garder quelque chose qui ne soit pas ni trop dur, ni trop fragile. Donc il y a un équilibre à trouver, et le liant, c'est de trouver quelque chose qui va tenir entre elles les particules de pigment. Alors ça, c'est lui qui va... Mon grand-père avait commencé en 1900 à faire du pastel, parce que l'histoire veut... Enfin, je n'ai pas de traces précises, mais enfin, la légende veut qu'en 1900... Degas serait venu au magasin et aurait dit à mon grand-père « Écoutez, je ne suis pas un de vos clients réguliers, c'était exact, il travaillait avec une maison qui existe toujours, qui s'appelait Pastel Rocher, mais il est tellement bousculé qu'il ne veut pas me faire un certain nombre de brins. » Alors mon grand-père a commencé à fabriquer des brins. Et ensuite, il a suivi la demande des clients. Et alors il a une gamme, qu'il a construit une gamme qui est absolument illogique, parce qu'on passe du brun à l'orange, au bleu, on tourne à d'autres bruns, on va à d'autres jaunes. Donc il y a une chronologie de fabrication des couleurs qui n'a absolument aucune logique, mais il l'avait faite, et puis il avait fait 700 tons à l'époque, et il avait fait différentes duretés, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, quand on fabriquait des couleurs, il y avait le pastel tendre, mais il y avait aussi des pastels de différentes consistances. Et voilà également des pastels, ce qu'on appelait les pastels demi-durs, parce qu'à l'époque, on n'a pas le même choix des crayons de couleur que nous avons aujourd'hui. Le pastel, il y avait trois qualités de pastel. Il y avait le pastel tendre, le pastel demi-dur et le pastel dur qui correspond aux crayons de couleur. Donc, il y avait peu de crayons de couleur où les crayons de couleur allaient apparaître, mais c'était le pastel sur lequel on dessinait à la couleur. Donc, ceux-là, ce sont des pastels qui sont taillés à la main, qui sont des pastels demi-durs, qui correspondent à peu près maintenant à des carrés comptés, la marque Comté ou d'autres, qui sont d'une dureté où l'on peut faire un trait précis. Alors, il fait ses pastels, il les vend et il a un certain succès, ils sont bien, mais en 1946, après la Deuxième Guerre, mon père va les reformuler. Et là, il va arriver à avoir une qualité nettement supérieure et ils vont connaître... quand va arriver la vague du pastel tendre, la mode du pastel tendre, relancée par les États-Unis dans les années 70-75, à ce moment-là, nous avons la plus grande gamme sur le marché mondial. Parce que tous les autres fabricants, et notamment une grande maison qui s'appelle Lefranc, avaient arrêté de fabriquer du pastel parce que la mode était complètement tombée. Donc on ne fabriquait plus de pastel dans les grandes maisons. Il restait des petits artisans comme nous, qui ne faisions pas trop bien les comptes, parce que mon père était un très bon chimiste, mais pas un très bon homme d'affaires. Et il continue son pastel parce qu'il aimait ce produit. Alors, on avait des pastels qui tournotaient dans des coins, qui ne duraient pas, qui ne se vendaient pas beaucoup. Et puis, va arriver cette demande des États-Unis. Et le hasard veut qu'un peintre célèbre aux États-Unis, qui s'appelle Daniel Green, aime bien nos pastels et va nous faire une publicité extraordinaire. Et on va être relancé, lancé sur le plan international et les pastels à l'écu de Sennelier vont devenir un des grands pas, des grandes marques sur le marché mondial du pastel. On n'est pas les seuls, il y en a d'autres, mais c'est une des spécialités de la maison parce que je crois que nous avons su sélectionner les pigments dans toutes les gammes de pigments que nous avons et que nous avons, je dirais, une qualité d'onctuosité qui a plu. Alors, pourquoi ils sont onctueux ? Ben, parce qu'il y a un bon dosage. Il faut savoir que pour faire 525 tons, qui est la gamme actuelle, mon père a mis 2 ans en travaillant quasiment tous les jours sur cette gamme. Chaque pastel demande une mise au point particulière. Et les pigments, c'est un peu comme les caractères humains. Il a un comportement différent à chaque fois que vous changez le pourcentage d'extrait sec, c'est-à-dire de pigments, plutôt. Suivant ce que vous mettez comme composant, parce que le pastel, c'est le pigment pur pour le premier ton, mais vous le dégradez. C'est-à-dire que vous allez rajouter du blanc ou d'autres matières, d'autres charges minérales pour, je dirais, dégrader le ton, pour aller sur un ton extrêmement pâle. Donc, quand on part du ton plein en pastel, on va avoir le ton plein et après, on va avoir jusqu'à 10 dégradés différents pour arriver, quand je prends un bleu, pour un bleu très, très pâle, je vais avoir des valeurs à chaque fois de ton dégradé. Alors ça, c'est la fabrication des pastels. Vous voyez, on mélange des pastels. Et alors là, c'est le broyage des pâtes. Vous voyez, on broie la pâte. Alors, cette grille au-dessus, c'est une sécurité pour pas que les gens mettent la main. Parce que vous voyez, quand on a les cylindres comme ça, quand vous mettez la pâte là, si vous mettez la main, elle y passe. Hein, et le bras aussi. Donc ça peut être très dangereux. Donc pendant longtemps, on n'a pas eu de sécurité. Et puis les mesures ont fait que maintenant, il y a des grilles qu'on ne peut plus accéder. On peut mettre la pâte, mais que par à côté. Alors voilà le pastel, quand il est fabriqué, vous voyez, c'est une pâte assez consistante. Là, nous sommes en présence d'un bleu d'outre-mer et on va le passer dans un appareil qui va lui donner sa forme. Alors, il y avait à l'époque, pendant très longtemps, au 18e, au 19e, on les faisait à la main. C'est-à-dire, on les roulait à la main comme on roule des cigares. Et puis après, on a essayé de trouver une petite machine pour les faire, ce qui n'était pas commode parce qu'on est dans une pâte extrêmement consistante. Voilà un petit peu la fabrication des pastels. Vous avez la machine, vous voyez, on remplit le cylindre là-haut, il y a une pression, et après, on fait sortir le pastel dans une cadule. Ce n'est pas très clair là, mais vous voyez, on les voit mieux là. Vous voyez, alors il y a une pression, il y a une vis d'Archimède qui pousse, et la pâte est posée sur un bloc de polystyrène. À l'époque, c'était un bloc de bois quand on a commencé, et on les laisse dans cette cavité où ils vont sécher. Vous les avez ici, voilà, des pastels qui sont fabriqués. Et on les coupe à chaque fois en remontant. C'est fait un par un, c'est la fabrication du pastel. Alors, vous avez là, c'est un plus gros modèle, parce qu'on avait nos petits pastels, et puis, bien sûr, comme on était assez connus aux États-Unis, on avait des gens comme de Kooning ou Stella qui nous ont demandé de fabriquer des gros pastels à l'échelle américaine. Alors, on a lancé donc le gros pastel que vous avez ici, qui est la même base, et vous voyez qu'ils sont faits par deux, qui ont la même base. Alors, on fabriquait on fait 25 kg de pâte de pastel, on les met, je dirais, dans la machine, et puis on fait 500 pastels en petits et 100 en gros que l'on faisait sécher. Alors, voilà les séchoirs de pastel qui, donc, dépendent, bien sûr, de l'humidité. Alors, maintenant, désormais, notre usine est en Bretagne, donc nous avons un problème d'hydrométrie, c'est-à-dire quand il fait très humide, on perd du temps dans les séchages parce qu'on ne veut pas les sécher dans des séchoirs, je dirais, on pourrait les mettre dans des séchoirs électriques avec une température, mais on s'est aperçu, on a essayé, on ne peut pas se montrer comme des petits saints, hein, on a essayé, mais ça ne marchait pas bien parce qu'il y avait un phénomène de durcissement trop rapide et à ce moment-là, il y avait une sorte de croûte qui se formait et le pastel perdait de son onctuosité à l'application. Alors voilà, une fois le pastel sec, on l'étiquette. Vous voyez, mais comme c'est extrêmement fragile, on ne peut pas les passer en machine. Donc c'est étiqueté à la main. Alors voilà un jeu de pastel en gros format que nous avons dans notre magasin pour vous le montrer un petit peu quand ils sont fabriqués. Alors voilà, ça c'est la fabrication des pastels, les stockages. Et alors là, on arrive à un autre problème, le problème des pastels à l'huile. Alors je vous montre cette boîte parce que c'est une boîte qui est un peu symbolique pour nous, c'est la boîte des premiers pastels fabriqués par mon père en 1948, le pastel gras, le pastel à l'huile, dont il est, je crois, l'inventeur, entre guillemets, de ce produit, parce que nous avions eu une demande, mon père avait eu une demande, moi j'étais trop jeune à l'époque, je ne travaillais pas encore là, et c'est mon père qui avait eu une demande de deux peintres, Henry Goetz, qui était un peintre américain, l'ami de Pablo Picasso, qui habitait à côté du magasin, puisqu'il habitait rue des Grands Augustins. Donc, Picasso, qui était client chez nous, mais pas uniquement, il venait parce que c'était une des boutiques les plus proches, avait demandé à Goetz de lui trouver une idée, parce qu'il voulait un matériau qui puisse être utilisé sur tous les supports. Donc, il voulait une certaine liberté, pas ses contraintes, parce que la peinture à l'huile nécessite, je ne veux pas revenir sur les techniques en elles-mêmes, mais nécessite une préparation ou un fond préparé. Pour la gouache, ça va être du papier, on ne peut pas l'appliquer sur du métal. Il voulait quelque chose pour travailler sur n'importe quel support. Et mon père va chercher pendant un an et va proposer à la fin ce matériau, qui est un matériau à base de cire et de pigments et assez gras, pour travailler sur n'importe quel support et avoir une bonne adhérence sur les supports. Donc, il peut travailler sur carton, il peut travailler sur bois, il peut travailler sur n'importe quel, sur papier. Et comme le liant est un liant, je dirais, qui ne s'oxyde pas, qui est un liant qui ne durcit pas, on va pouvoir travailler sur papier sans altérer le papier. Parce que si vous êtes un peintre et que vous appliquez de la peinture à l'huile sur du papier, au bout d'un certain temps, par l'oxydation de la couche picturale, vous allez avoir brûlé. On oxyde, donc on brûle, le papier va se déchirer comme du papier de verre. Ça va être terrible au bout de 50 ou 60 ans. Donc, avec le pastel de la gras, on n'a pas ce problème. Et on a un produit que là, il a fait pour Picasso, et il va fabriquer environ une cinquantaine de... Il y a beaucoup de gris, parce que Picasso a beaucoup de gris, et donc il va fabriquer une cinquantaine de sticks. Il n'y croit même pas beaucoup, parce que vous voyez, il ne fait même pas d'étiquette, il fait un tampon pour marquer les numéros, et il en fait un certain nombre, et Picasso va en acheter les trois quarts. Mais il n'achète pas tout. Bon, alors mon père les met dans le magasin, et il va les laisser pour que les gens, il dit peut-être que ça intéressera des gens. Lui n'y croyait pas trop, parce qu'il disait qu'ils ne durcissent pas. Donc, comme ils ne durcissent pas, ça va être très embêtant dans le temps. Et donc, il n'y croit pas. Et puis, il y a des gens qui vont acheter ces pastels, et on n'a jamais arrêté d'en fabriquer. C'était devenu... Et parce que les gens sont revenus. Et ont redemandé ce pastel gras, qui a des caractéristiques qu'il avait faites pour Picasso, avec très, très, très grosse densité de pigments. Et ils vont connaître un certain... Alors, voici une petite lettre qu'avait écrite Henri Goetz, qui avait été un peu l'intermédiaire, parce que Picasso avait lancé l'idée, et c'est Henri Goetz, qui était un peintre d'origine américaine, qui était un de ses amis, qui a beaucoup été l'interface entre Picasso et nous pour mettre au point ces pastels. Parce qu'on a bien sûr voulu connaître son point de vue, et il nous a aidés dans la mise au point, enfin il a aidé mon père dans la mise au point de ces pastels. Hein. Alors, voilà comment est fabriqué le pastel. Vous avez ici le pastel gras. Vous l'avez ici, vous avez un récipient dans lequel il y a le pigment broyé avec une huile, mais je ne vous dirai pas laquelle. Et deuxièmement, c'est tenu à chaud. On mélange le tout. Il y a un agitateur à l'intérieur. Et vous allez voir, on remplit des petits moules. Alors, vous voyez, la couleur coule dans les petits moules. C'est comme si on fabriquait du rouge à lèvres. Hein. C'est un peu le même principe. Alors, on coule à chaud la couleur qui rentre dans les moules. Vous voyez, on la voit bien. Pardon, on la voit bien, qui rentre dans les moules. Vous voyez, les moules, on voit les séparations. Et quand ils vont s'ouvrir, on va ouvrir les moules. Vous voyez, on voit ces petites lignes. Vous voyez ces petites lignes qui sont là? C'est parce qu'on va ouvrir le moule. Voilà, on a coulé la pâte. Et voilà comment on coule les gros pastels également. Là aussi, fabriqués au départ pour le marché américain. Pendant même 3-4 ans, ces pastels n'ont été disponibles qu'à New York, parce que la boutique new-yorkaise voulait avoir l'exclusivité de ce produit sur le plan international. Et parce que c'était surtout Hog Stella, qui était un peintre assez connu américain, qui consommait ça. Alors vous avez ici les moules, et quand le moule sera refroidi, on va l'ouvrir. Vous voyez, avec ces petits papillons, hein, vous voyez, on a ici ces petits papillons qui vont vous permettre de... c'est moi qui appuie sur un mauvais... Vous l'avez ici, on ouvre les moules qui sont tenus, vous voyez, on les voit les séparations, c'est tenu avec cette petite languette qui tient les différents composants. Alors bien sûr, une fois que le pastel a été fabriqué, on va tout de suite le comparer, voir s'il est à un premier stade de contrôle immédiat. Si déjà on est dans la tonalité, après on va le conserver, car une fois que nous avons fait une fabrication, on ne la met jamais tout de suite en étiquetage. On va attendre quelques temps pour voir comment elle se comporte. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les stades de contrôle que nous avons, mais déjà, l'ouvrier qui fabrique fait un premier constat avant que ça monte au labo. Alors voilà, vous voyez la couleur rouge dedans. Bon, ça, c'est encore un pastel. Et les fabrications de pastels, vous les avez ici, les fabrications de ces différents pastels. Alors ça, c'est une innovation dont je suis assez content, parce que c'est ce qu'on appelle la peinture à l'huile en stick. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, vous connaissez tous la peinture à l'huile sous une forme de tube avec une pâte. Et dans les années, je dirais, 80-85, il y a une maison américaine qui a fabriqué pour l'industrie, pour les laminoirs, elle a fabriqué une peinture, des sticks à base grasse, parce qu'il s'était aperçu que les craies s'effaçaient trop facilement dans les laminoirs, avait fait une peinture qui pouvait se marquer sur les grands en sortie des laminoirs et qui permettait de marquer les plaques. Mais le problème, il ne fallait pas qu'elles s'effacent. Alors, ils ont trouvé une astuce, ils ont trouvé une peinture à base de cire qu'ils ont créée et qui séchait au bout d'un certain temps. Alors, ça a été utilisé dans l'industrie, ils fabriquaient ça, il y avait une usine, une petite usine où il y avait 20 personnes qui fabriquaient ça, uniquement pour tous les laminoirs du monde, tous les gens qui faisaient de la production d'acier, de tout ce qui nécessitait un marquage. Et un jour, il y a un artiste qui a trouvé ce produit et qui l'a utilisé pour faire de la peinture. Donc, il y a une maison américaine qui a lancé ce produit dans la création artistique. Il y en a une deuxième qui s'est créée et personne en Europe ne fabriquait ça. Alors moi, j'ai voulu racheter ce brevet américain qui m'apparaissait très intéressant. Malheureusement, ce n'est pas moi qui ai pu l'avoir, c'est la maison anglaise Windsor & Newton qui était beaucoup plus importante que nous, qui a racheté le brevet. Donc nous nous sommes trouvés devant un produit qui ne pouvions pas mettre l'étiquette Sennelier dessus. Alors on a cherché au labo et on a fini par trouver. Et aujourd'hui, on est les seuls en Europe encore à avoir cette fabrication et à mettre au point ce produit. Et nous le vendons très bien aux États-Unis. On est assez contents parce qu'on arrive à les concurrencer sur leur propre terrain où ils étaient vraiment en avance sur nous technologiquement. Mais on a trouvé l'astuce. Ça a demandé du temps, mais on l'a trouvé. Alors ça, c'est le labo dans lequel, vous voyez, on retrouve le principe qu'on avait vu tout à l'heure dans le moulin à couleurs. Vous voyez, il y a deux faces. Alors, on va rabattre cette partie. On met le pigment ici. On le met là. Et une partie va tourner comme le même système. On va ramener les deux faces l'une face à l'autre et on va broyer le pigment pour le tester. Parce que quand on reçoit un pigment dans notre usine, il faut qu'on les teste, voir s'ils sont conformes aux normes de ce que nous avons sélectionné. Donc voilà un exemple d'un test. Il y a également, bien sûr, des petites machines. Vous voyez, ça, c'est une machine de labo. Elle fait à peu près cette taille-là. Donc, il y a toujours les trois cylindres et on va faire des petits essais de fabrication. Et vous voyez, on fait la pâte et là, on a environ 50 grammes de ce système, un petit bol en dessous, car nous broyons le pigment pour voir s'il présente un intérêt quand on fait des tests. Parce que il y a dans le laboratoire 5 personnes chez Sennelier, il y a 2 chimistes et 3 aides chimistes qui vont passer leur temps à vérifier les matières premières et surtout à remplacer les matières premières qui disparaissent. Parce que beaucoup de matières premières disparaissent du fait que l'industrie... Alors voilà comment on sélectionne les pigments. Alors il y a l'œil et puis bien sûr on a des spectromètres pour vérifier les lots qu'on nous présente. Ça, c'est... Moi, je suis troisième génération. Ma quatrième génération, c'est ma fille dans un des magasins. Et voilà l'usine que nous avons maintenant à Saint-Brieuc où nous avons un partenariat avec un groupe qui s'appelle le groupe Raphaël Soer qui est fabricant de pinceaux. Alors ça, voilà, rapidement, parce que je ne veux pas abuser du temps, voilà quelques peintres qui ont fréquenté la boutique que nous avons rencontrée. Alors, bien sûr, il y a eu Modigliani, il y a eu Bonnard, qui connaissait assez bien mon grand-père, parce qu'il avait un atelier sur le quai aussi pendant un certain temps, et qui était un monsieur qui venait régulièrement au magasin et qui a apporté un certain nombre de conseils à mon grand-père. Alors, voilà des œuvres de Bonnard. Et si ça, c'est une facture de Kandinsky des années 34, où Kandinsky venait au magasin et où mon père allait lui livrer ses toiles. C'était quand il habitait Neuilly. Alors, donc, du Kandinsky. Là, c'est Picasso dans la mise au point des pastels à l'huile que nous parlons. Là, c'est des albums à dessin que Picasso utilisait. Il a fait, si vous voyez au musée Picasso, vous verrez un certain nombre d'albums et où il a travaillé sur des albums, notamment celui du mois de mai de 40, qui étaient des albums qu'il avait achetés au magasin. Ça, c'est Yves Klein qui a fait le bleu en partant du bleu outre-mer. Alors, Il a utilisé ce bleu outre-mer en poudre dont vous a parlé tout à l'heure Monsieur Walter concernant cette couleur. Et il le mélangeait avec un produit qu'il achetait ou chez nous ou chez un de nos confrères qui était Adam. Nous étions les deux à le fournir sur ce fameux bleu clin. Et puis là, ce sont Nicolas de Staël, parce que Nicolas de Staël avait été client de la maison et mon père a mis au point pour lui, enfin mis au point, a conditionné à créer les gros tubes. Il y avait des gros tubes de peinture et à l'époque, Nicolas de Staël utilisait des grosses quantités. Et mon père, je me souviens, c'était après la guerre, allait acheter des tubes vides dans une maison qui faisait à Corbeil, qui faisait du lait concentré. Alors on allait acheter des tubes vides parce qu'on n'en avait pas en stock et il allait chercher ces 300 tubes de vide et qu'il mettait en tube pour, notamment, il y avait lui et puis il y avait Riopel aussi qui étaient des gros clients de Sennelier. Et puis là, il y a eu Balthus qui a été un de nos fidèles clients pendant très longtemps. Je me souviens qu'on lui envoyait, quand il était à la Villa Médicis, les couleurs qu'il achetait. Là, je l'ai mis un petit peu celle-là parce que j'ai bien connu quand ils venaient tous les deux au magasin quand ils étaient à Paris. C'était Dali et Gala qui venaient se fournir quand ils séjournaient à Paris, mais qui n'utilisaient pas d'autres marques, il faut être honnête. Et puis elle, alors pourquoi Sonia Delaunay? Parce qu'elle a étudié les gouaches. Alors ça, c'est un petit peu un petit côté personnel. Quand je suis rentré dans les années 60, fin de 59-60, dans la société, première chose que mon père m'a demandé de faire, c'est de reformuler les gouaches. Et donc, c'était mon travail, et donc les gouaches qu'on vend aujourd'hui sont encore sur la base que j'avais travaillé pendant 4 mois. J'étais un peu crispé à l'époque dans la formulation, parce qu'elles étaient pas mal celles qu'on fabriquait avant, donc il fallait faire un peu mieux, ce qui n'est pas toujours facile. Et Sonia Delaunay a été une des grosses clientes de Sennelier dans le problème de la fabrication, dans les gouaches. Et puis, il y a aussi Vera da Silva, qui était une personne qui a travaillé beaucoup avec les peintures à l'œuf. Donc, toutes les peintures à l'œuf de Vera da Silva sont faites sur les bases de nos couleurs. Et puis, le dernier que j'ai bien connu, qui est Olivier Debré, dont je vous présente quelques travaux. Et voilà, Olivier Debré, qui est dans son travail, lorsqu'il faisait le fameux rideau de la Comédie française. Alors voilà brièvement l'histoire d'une famille en rapport avec la peinture, comment nous avons, choisi les pigments qui sont la base de toutes ces couleurs et que j'ai appris un petit peu à sélectionner par tradition familiale et aussi par expérience. Je vous remercie de votre attention.